L'essentiel du mérite d'une mitzvah, c'est l'amour de Dieu qu'on met. Le chesh, c'est l'envie de faire la mitzvah. Quelqu'un qui est amoureux de Dieu, il veut qu'il se dévoile, il n'en peut plus. Donc Mashiach viendra, méritant, sans douleur, très rapidement, très bientôt, on le verra. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Reuven Moshe Ben Dina Simcha Zecher Tzadik Livracha, qui était assassiné par erreur il y a environ 2 semaines à Paris. Alors la question de Sassi.
Pourquoi faut-il attendre le Mashiach?
Pourquoi faut-il attendre le Mashiach? Alors il y a un petit rapport avec avec la dédicace. Je m'adresse à la famille ici parce que évidemment c'est terrible une chose pareille qui arrive. Il faut savoir qu'il est écrit dans le Zohar HaKadosh, le Kabbalah, que lorsque le Mashiach se dévoile, il y aura 40 ans d'époque messianique, la royauté du Mashiach. Et après, il y aura une période, il y a 2 avis là-bas, un avis qui dit 214 ans, d'autres qui dit 218 ans, ce qu'on appelle l'époque de la résurrection des morts. C'est un grand processus où lentement l'humanité va monter, les morts vont ressusciter, et nous, les vivants, on va changer à un moment, on va se sanctifier de plus en plus, on va enlever notre habit de peau, ce qu'on appelle le corps, que nous connaissons. On va recevoir un corps, on ne peut pas vivre sans corps, l'âme, il faut un corps, on aura un corps de lumière, comme le premier homme avant le péché originel. Il vivait dans un paradis, avec des animaux, c'est marqué que les anges faisaient des grillades, lui donnaient du vin, voilà, la belle vie, d'accord. Et il y avait là-bas des arbres, etc., l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tout ça, c'était des corps de lumière. Et lorsque le premier homme a péché, il y a une dépression terrible, tout est tombé dans ce monde terrible dans lequel nous sommes, où il y a tellement de mal. Et on a reçu, c'est marqué que Dieu a cousu au premier homme et à sa femme des habits de peau. Alors le sens simple, c'est des habits de peau, c'est-à-dire il leur a donné un habit, c'est du lapin, de la fourrure de lapin, d'accord. Mais la Kabbalah veut dire, c'est quoi l'habit de peau? C'est notre corps, c'est ça. Maintenant, quand Mashiach vient, peu à peu, toute l'humanité va se sanctifier. Au bout d'un moment, on va enlever nos habits de peau et recevoir nos habits de lumière fantastique, Be'ezrat Hashem. Baba Salé, il a dit une chose qui est très simple. Le monde doit finir en l'an 6000. Attends, si tu prends les 40 ans de l'époque messianique, plus encore les 214 ou 218 ans, on va prendre 214, d'accord, de la traite amétime, la résurrection des morts, ça fait combien? 254. Nous, on est en quelle année? En 5783, bientôt 4. D'accord? Ça fait qu'il reste combien de temps jusqu'en l'an 6000? Il reste 216 ans. 216 ans et 3 mois. D'accord? Alors, il y a les 254, c'est mort. Donc, il a dit, changement de programme. Quand Mashiach vient, immédiatement, résurrection des morts. Alors, nous ne savons pas quand Mashiach vient. Tous les rabbinim disent que c'est incessamment sous peu, il y a des rêves, des trucs, tout le monde dit que ça y est. Mais dans Hachem, très bientôt, tous les morts vont ressusciter. J'étais dernièrement à un enterrement, il y avait le Rosh Yeshiva Yeshivat Mir, d'accord, Rav Yitzhak Ezrahi. C'est pas un illuminé, c'est pas un kabbaliste, c'est pas, d'accord, c'est un homme du monde litaï, le monde lituanien, très très carré, le monde ashkenaz, et il a dit, c'est pas pour longtemps que le défunt est parti, très bientôt, il revient parce que c'est la résurrection des morts, Bezrat Hashem. Alors, revenir à ta question, Sassi, pourquoi est-ce qu'il faut attendre le Mashiach? Il y a une erreur. Dans les 13 articles de foi de Maïmonide, il est écrit là-bas, donc c'est quoi 3 articles de foi? Ce sont les bases de la foi d'un juif, d'accord? Que Maïmonide a rédigé. Il n'a pas inventé ça, il a rédigé. Et parmi ces choses-là, il y a là-bas la croyance en la venue du Messie. Et les gens croient que c'est ça qu'il a écrit, et c'est faux! Il dit, il faut non seulement croire que le Messie viendra, mais l'attendre. Et celui qui n'attend pas le Messie, il est kofer. Kofer, c'est un apostat, je parle en bon français, c'est un non-croyant dans les paroles de la Torah et dans les paroles des prophètes. Donc il faut attendre. Attendre, ça veut dire, j'en peux plus. Combien? Rabbi Saint Bachot donne un exemple, comme une mère qui attend son fils de revenir à 4 heures de l'école, et les 4h30, toujours pas rentré. Elle s'inquiète, elle va au balcon, regarde par la fenêtre, dans la cage d'escalier, tout ça, elle se rend arrêtée, pas au courant, tout ça. Comme ça, on doit attendre avec impatience. Ça, c'est l'obligation. Et peu importe de quelle obédience juive orthodoxe on est. Chabad, c'est clair qu'ils en parlent beaucoup. Mais même le monde lituanien, qui a fait un peu une réaction à Chabad à l'époque, ils n'aimaient pas quand on parle du Mashiach. Mais c'est une grande erreur. Parce qu'on voit que le grand rabbin du monde lituanien, c'est le Mishnah Bura, le Chafetz Chaim, d'accord, qui est mort en 1933. Il a écrit plusieurs livres, dont un livre qui s'appelle Tzipi, à Yeshua, voyant que les Juifs n'attendaient pas suffisamment, n'attendaient pas le Mashiach. Il a écrit un livre entier sur le sujet. Bon, il n'est pas trop long le livre, il est assez court, mais quand même, il a écrit là-dessus, pour expliquer à quel point il faut attendre. Il attendait. Il y avait un bruit comme ça, il disait quoi ? Ah, c'est le Mashiach. Bien sûr que tous ces rabbins avaient l'habit pour le Mashiach, d'accord, il faut avoir l'habit, parce que quand Mashiach vient, c'est bien d'avoir un habit spécial. Entre nous, il faut savoir un habit spirituel, bien, parce que si tu as un bel habit, mais tu es plein de péchés, il vaudra absolument rien ton habit Hugo Boss, d'accord ? Qu'est-ce qu'il s'en fout, Mashiach, de Hugo Boss ? Il veut, il regarde ton âme. Le Mashiach, un des moyens que nous aurons de reconnaître Mashiach, c'est marqué Varicho Birat Hashem, marqué dans le prophète Yeshayahu. Il verra la Irat Hashem, la crainte de Dieu que quelqu'un a par l'odorat. Berk, d'accord ? Ah, je sens le paradis. D'accord ? Comme Yitzhak. Yitzhak Avinu est aveugle. Rentre Yaakov Avinu, déguisé en Esav. Esav était poilu, et donc sa mère Rivka lui a mis sur les bras la fourrure des kvassim, des brebis. D'accord ? Et Yitzhak le bénit, et il dit, « Ah, l'odeur de mon fils est celle comme celle du champ que Dieu a béni. » Le paradis, c'était un jardin, que le jardin que Dieu a béni. Rachid dit sur place, il n'y a pas de plus mauvaise odeur que la peau des brebis. Berk. Comment on dit qu'il y a une bonne odeur ? D'accord ? Alors, Yitzhak, il ne parlait pas du physique. Il sentait la Yirat Hashem, la crainte de Dieu qu'avait son fils Yaakov. Il dit, « Ah, je sens l'odeur du paradis. » Alors, il faut avoir une bonne odeur, un bon costume aussi, pourquoi pas ? Il n'y a pas de problème, c'est bien. En parenthèse, je vais demander à Rabbi David Abouhasser, costume blanc ou costume noir ? Il m'a dit noir. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va tous habiller, peut-être qu'on va tous habiller en blanc. Mais quand ma chère vient, on se met en noir, normal. D'accord ? Oui. Quelqu'un a posé une question ? Non. Donc, je reviens à la question super importante, pourquoi attendre ? Eh bien, c'est très simple. Une des mitzvot, ce n'est pas peut-être la mitzvot la plus importante de toute la Torah, est l'amour de Dieu. C'est vrai que c'est marqué que c'est l'étude de la Torah, Dominique Tanchuma, c'est écrit que c'est la prière, d'accord. Mais une étude de Torah et une prière sans amour de Dieu, c'est comme un corps sans âme. Ça n'a pas de valeur. L'essentiel, comme ça écrit le Rav Eliashiv, c'était le grand décisionnaire de notre génération, Ashkenaz, énorme, mort à l'âge de 106 ans. Son grand-père était le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles, le Rav Shlomo Haykel Eliashiv. Le Mekoubal, le kabbaliste, il dit que l'essentiel du mérite d'une mitzvah, c'est l'amour de Dieu qu'on met, le cheshek, l'envie de faire la mitzvah, la pnimiyut, l'intériorité. Si tu fais la mitzvah juste pour la faire, pour être rendu quitte, alors on a souvent raconté que la Torah, c'est comme une relation avec Hachem, c'est comme une relation avec une femme, d'accord ? Si tu rentres le vendredi après-midi et t'as acheté un bouquet de fleurs pour Shabbat pour ta femme, ou son anniversaire de mariage, vous savez son mariage, ou son anniversaire, tu lui dis, tiens, tu jettes comme ça, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut un trémolo, elle veut des mots d'amour, elle veut de la gentillesse. Alors, il y a l'acte. Si tu dis le trémolo sans le cadeau, ça va pas. Mais le cadeau sans le trémolo, ça va pas non plus. Hachem, il veut les deux. Et bien sûr, c'est l'essentiel, c'est l'amour, c'est le trémolo. Il faut aussi l'acte. Donc en fait, on revient à cette mitzvah super importante, l'amour de Dieu. Une femme qui aime son mari d'un amour fou, extraordinaire. Son mari aussi l'aime. Et il part. Il dit, je pars à l'étranger, je ne sais pas quand je reviens. Ça peut être un mois, deux mois, un an, deux ans, trois ans. Plus. Elle attend. Elle attend. Elle imagine le jour où il va revenir. Comment ils se revoir ? Elle est tous les jours, elle regarde par la fenêtre, il arrive pas, puis il peut arriver dommage, de nouveau encore le lendemain. Si on est amoureux de Dieu, on veut qu'il se dévoile. C'est quoi ce monde tordu ? Dieu est là, il gère tout, mais on ne le voit pas, on veut le voir. On veut parler. Il y a une mitzvah extraordinaire. Au début du traité Chagiga, ils en parlent. C'est de la Torah qui s'appelle aux trois fêtes. aux trois fêtes, de trois régalim, donc Pessah, Shavuot et Sukkot, chaque homme mâle du peuple juif devait amener un korban, un sacrifice, appelé sacrifice Re'iya, sacrifice de la vue. Pourquoi ? C'est dans la Torah, Kol Zrucha Yare et Pnei Hashem. Chaque mâle d'entre toi sera vu par Hashem. Donc on allait au temple pour être vu par Hashem. Hashem vient nous voir. Et on amène, par l'occasion, on t'amène un sacrifice, un cadeau, d'accord ? Eh bien, là-bas, Nagmara a dit, c'était à deux sens. C'est-à-dire que, un, Dieu nous voyait, et nous, on voyait Dieu. Tu me diras, mais c'est marqué, on ne peut pas voir Dieu et survivre. Oui, alors il y avait un certain dévoilement de Dieu. C'est ce qu'on veut. Quelqu'un qui est amoureux de Dieu, il ne veut pas que ce monde plein de mal, ce monde de mensonges, ce monde où les gens ne reconnaissent pas l'oralité de Dieu continue. Il veut qu'il y ait un dévoilement de la vérité. Le mal, on va l'éradiquer, raus, dehors, Dieu apparaît, tout le monde le reconnaît, c'est ce qu'on dit en toutes nos prières. Allons Shabbéach, c'est la fin de la prière. Qu'est-ce qu'on dit là-bas ? Que le mensonge disparaîtra, tous reconnaîtront à Dieu, se prosterneront devant lui, tous vont le louer, etc. C'est ça, c'est cette prière de Allons Shabbéach qu'on dit tous les jours à la fin de la prière. Les jours de Rosh Hashanah et Kippour, on le dit dans la prière, dans la Hamida. T'as pas de prière plus importante que le Moussaf de Rosh Hashanah et le Moussaf de Kippour. Et dans ces prières-là, on parle, à l'intérieur, on dit ces grandes louanges à Dieu qu'on attend tellement ce moment. Quelqu'un qui est amoureux de Dieu, il veut qu'il se dévoile, il n'en peut plus. Comme la femme qui attend son mari. Et puis si elle dit au mari, je m'en fous quand il revient, ben, t'es pas amoureuse, quoi je m'en fous. Et le mari qui il a envoyé quelqu'un, un espion, aller voir comment, il va voir si ma femme elle m'attend. Et hein, rien du tout. Eh ben qu'elle attende encore. Et ça fait 2500 ans qu'on attend, on n'en peut plus.
Hachem et ma chère, c'est deux choses différentes.
Non, c'est la même chose, c'est-à-dire, bien sûr que c'est pas... Attention, pas comme les chrétiens qui disent que le Mashiach, c'est Dieu. Il y a Dieu et il y a le Messie. Mais lorsque le Messie vient, qu'est-ce qu'il fait ? Il se l'envoie de Dieu, comme Moshe Rabbeinu en Égypte. Il va faire des miracles extraordinaires qui vont prouver qu'il est envoyé de Dieu. Tout le mal va être éradiqué. Il n'y aura plus des ennemis d'Israël. Tout le monde reconnaîtra que le peuple d'Israël est le peuple choyé par Hachem. Et tout le monde voudra servir Hachem. Et il y aura la reconstruction du temple, on verra Dieu, il nous verra, on va le louer, on amènera des sacrifices, il n'y aura que du bien dans le monde, que du bien. Fini, je vais faire bientôt un cours blindaire sur l'intelligence artificielle, d'accord ? C'est très, d'un côté loué, critiqué, il y a vraiment beaucoup de mal potentiel et aussi beaucoup de bien. Dans une optique juive, c'est extraordinaire, ça annonce que Mashiach vient. Je vais faire un cours là-dessus, c'est très très beau, c'est très très précis, Bezrat Hashem. C'est fini ! Plus on va aller travailler, faire des études, le bac, l'université, tout le monde va s'asseoir, on va étudier la Torah avec Hachem, on va connaître Hachem, un bonheur fantastique. Ça vient par l'entremise du Mashiach. C'est lui, l'être humain sur Terre, qui est envoyé pour faire tout ce qu'il faut. Bien sûr, avec l'aide de Dieu. Mon cher Abel, on vient en Égypte, il ne peut pas faire des grands miracles, c'est pas Dieu qui est derrière, d'accord ? Un homme avec qui est représentant de Dieu sur Terre, le roi d'Israël, qui lui va faire toutes les missions, qui vont faire en sorte que Dieu va se dévoiler, et le mal sera éradiqué du monde. Et quelqu'un qui aime Dieu, alors forcément, il veut que ça arrive rapidement. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et d'un côté se satisfaire de ce monde pourri, et je suis encore gentil avec ce mot, d'accord ? Aujourd'hui spécialement, où tout est mensonge, on ne peut plus croire personne. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Il y a tellement de mal, tellement de tristesse, tellement de... Et la pire des choses qu'il y a, qui amène tout le mal, la débauche sexuelle. D'accord ? Voilà. Internet. D'accord ? La poubelle du monde. Alors, il y a du bien. Bah, Baruch Hashem, il y a des cours qu'on donne sur Internet. Mais le pourcentage, c'est un... Heureusement, c'est marqué « Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité ». On ne veut pas se satisfaire de cela. Donc, il y a une mitzvah, une obligation importante qui est d'ailleurs oubliée par beaucoup de juifs. Alors, Messin Bachaoul, il m'a dit il y a 30 ans, lorsqu'un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. Il m'a dit, il y a peu de personnes, yahidim, comment dire ça, des gens, il y a quelques personnes uniques dans la génération qui attendent Mashiach. C'est terrible. C'est il y a 30-40 ans qu'il m'a dit ça. D'accord ? C'est pour ça que Mashiach ne vient pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a une grande attente. Hélas, aussi beaucoup à cause de la souffrance. Les gens souffrent, on n'en peut plus, d'accord ? Alors, quand ça ne va pas, on attend que Dieu se dévoile et qu'il enlève tout le mal du monde. Mais ce n'est pas la bonne raison d'attendre Mashiach. Il ne faut pas attendre Mashiach pour enfin maintenant, je ne serai plus en minus, comme on dit en français, en minus à la banque, d'accord, dans le rouge, d'accord. C'est fini, le jugement que j'ai, il n'existera plus, la contredanse. J'ai une contredanse, hélas, d'accord. J'appelle en dernière seconde, peut-être Mashiach viendra avant. Bon, c'est parti. Mais ça pollue, parce que dans ton esprit, maintenant, tu as Mashiach, tu as la contredanse. Hey, tu compares. Ce n'est pas des bonnes raisons. La bonne raison pour laquelle on doit attendre Machiach, c'est par amour de Dieu. Parce que quand tu es amoureux, tu veux qu'il y ait ce dévoilement de Dieu. Vu que tu aimes Dieu, tu ne peux pas supporter le mal, tu ne peux pas supporter le mensonge, tu ne peux pas supporter que l'on ne reconnaisse pas le maître du monde qui fait tellement de bien. Par amour de Dieu, nous voulons, nous attendons ce moment avec impatience. Oui.
Deux petites questions. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah que Machiach doit venir, qu'il y a un Messie qui doit venir, est-ce que...
C'est marqué plusieurs endroits.
C'est marqué en sous-entendu.
Non, clairement, c'est marqué clairement. C'est marqué dans la bénédiction que Yaakov fait à ses enfants, sur Yehuda, Ad Yavo Shilo. Belo Hikat Amim, parce qu'il viendra à Shilo, c'est un des prénoms de Mashiach, Belo Hikat Amim, et à lui, tous les peuples s'assembleront autour de lui. D'accord ? Ça, c'est une fois dans la Torah. Deuxième, dans 2-3 semaines, on va lire Parashat Balak, là-bas. Le prophète Bilham des Goïm bénit le peuple d'Israël et il parle à plusieurs reprises du Mashiach, dans la dernière partie. Kam Shevet Mishraël se lèvera un dominateur d'Israël et tous les peuples seront sous sa tutelle. Non, clairement. Ça, c'est dans la Torah. Maintenant, dans les prophètes, des kilomètres à des kilomètres. Prends Isaïe, prends tout. Il n'y a pas un prophète qui ne parle pas du Mashiach. D'accord ? Et maintenant, la Torah de Moshe Rabbeinu, ça, c'est écrit. D'accord ? Donc, nous savons que ça va être ainsi. Et puis, aujourd'hui, plus aucun doute, parce que si on vivait il y a un siècle, on aurait dit, bon, heureux le niais, le naïf qui croit à ses sornettes. Mais aujourd'hui, on voit que toutes les prophéties annonçant Mashiach se sont dévoilées. C'est marqué dans la Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 98b. C'est une prophétie de Yeheskel 36. Alors, ça vaut la peine de lire Yeheskel 36, c'est phénoménal. Là-bas, c'est écrit, Dieu nous ramènera en terre d'Israël. Pas parce qu'on est des gens bien, parce que son nom est profané parmi les peuples quand ils voient que le peuple d'Israël est en exil et souffre. On est peuple de Dieu, quoi, ça c'est le peuple de Dieu. Les chrétiens ont dit c'est bien fait, c'est les justes sont condamnés à vivre éternellement dans la souffrance et dans l'exil parce qu'ils refusent de reconnaître leur vraie idole. D'accord ? Alors c'est un chilou Hachem, c'est une profanation du nom de Dieu. Alors je vous ramènerai en terre d'Israël. La terre qui était aride donnera ses fruits de façon abondante. La Gemara, que je vais citer maintenant, Sanhedrin, page 98, dit ça, c'est le signe le plus clair comme quoi le Mashiach il arrive. Prends la terre d'Israël. C'est une terre qui est extrêmement fertile, dans laquelle coule le lait et le miel. Pourtant, durant presque 2000 ans d'absence juive, enfin dire de non-maîtrise de la terre d'Israël par les juifs, mais par les arabes notamment, elle donne rien. Un désert aride. Mark Twain, un grand écrivain américain, il y a environ 120 ans, il a fait un voyage en Israël, il dit, mais c'est la désolation. Il y a des ronces, des cactus, rien. Regarde ce qu'il y a aujourd'hui. C'est un des pays au niveau agronome les meilleurs au monde. On exporte, nous, les fruits qu'on a ici qui sont très bons, c'est rien, c'est la gnognotte qu'ils aient. Tous les bons fruits sont exportés à l'extérieur. L'agronome israélien, c'est les meilleurs agronomes qui sont connus dans le monde entier. D'accord, la terre donne ses fruits de façon abondante. Et puis, la terre va donner ses fruits sans bon nom. La terre, maintenant, ils sont retrouvés encore il y a 2 semaines maintenant, une nouvelle nappe de gaz, 300 000 cubes, sans parler de 2 autres clients énormes. Et il y a des diamants, il y a une mine de diamants, on a trouvé des diamants très très rares, d'accord. Et puis, il y aura la tchouva, le peuple d'Israël qui fait tchouva, il n'y a jamais eu un mouvement de tchouva de l'histoire. Il y a eu à l'époque de Mordechai et Esther, mais à cause de la crainte qu'ils allaient être tués tous, alors ils ont fait tchouva. Mais là, il n'y a aucune crainte, c'est par amour de Dieu. Le monde de la Torah qui n'a jamais été aussi grand, ni en qualité, ni en quantité, durant tout l'exil. Tous nos ennemis autour de nous, qui auraient dû nous bouffer en petits morceaux de point de vue rationnel, d'accord, d'après les projections rationnelles, lorsque l'État d'Israël a été créé, ils ont dit, ce pays a 20 ans à vivre. Après, voilà, terminé, entouré de millions d'Arabes qui te détestent, beaucoup plus fort, et en qualité à l'époque, au niveau des armes, étaient mieux armés que nous, et en quantité. Et Dieu, il a réglé le problème, d'accord. Terminé. La Syrie qui est notre pire ennemi, guerre civile, 350 000 morts, Baruch HaShem. Saddam Hussein, je me souviens quand moi j'étais à l'armée, le général nous a dit, vous ne pas imaginer la puissance de l'Irak. C'est des dizaines et dizaines de fois une armée plus puissante que la nôtre. Et ils sont en guerre contre les Iraniens, et ils ont des millions de morts, Kanirbou. D'accord. Vient l'Amérique, plus de Saddam Hussein, plus d'Irak. L'Égypte, ils ont fait la paix avec nous. La Jordanie aussi, l'Arabie Saoudite aussi. C'est miraculeux. Reste l'Iran. Mais l'Iran, c'est le dernier acte, d'accord. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est le dernier acte pour Trimato et Mirce Hachem. Donc, si on veut, il y a 100 ans avant ces événements, on aurait dit, bon, ok, il y a des gens qui croient, mais maintenant que tu vois qu'il y a tous ces signes-là, ben, on va vers quelque... C'est pas pour rien qu'on en venait. La Shoah, c'est marqué au début du dernier chapitre de Daniel, c'est marqué qu'avant la Géoula, arrivera un malheur au peuple d'Israël qui n'aura jamais eu durant toute l'histoire. Et ceux qui sont inscrits dans le livre seront sauvés. On a vu la Shoah, des gens ont été sauvés de façon miraculeuse, d'autres pas. Qui, quoi, comment? C'est tous des calculs qu'on ne sait pas, mais c'est écrit qu'il y aura un événement qui n'aura jamais eu durant toute l'histoire. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pire que la Shoah?
La raison de plus, je veux dire, parce que beaucoup de gens qui sont, restent sceptiques par rapport à cette vision du Machiav disent de toute manière, il y a eu la Shoah, et ça a été des massacres, il n'est pas vu Machiav.
Mais entends ce que je dis, il ne faut pas être impatient. Entends ce que je dis.
Impatient, c'est pas l'impatience.
Si on vivait actuellement encore dans le même exil qu'il y a 100 ans, et qu'il y a eu la Shoah, alors tu aurais peut-être raison. Regarde, on souffre, peut-être c'est les chrétiens qui ont raison. Et là, je te dis, écoute, on a souffert, terrible. C'est écrit qu'il y aura cela avant que Machiav revienne, et regarde ce qui s'est passé dès lors. Retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits, le monde de la Tchouva, le monde de la Torah, les victoires sur les ennemis, tout cela dit, Machiav, il arrive. Tout cela dit, et l'intelligence artificielle aussi dit, comme je vais expliquer bientôt dans un cours, Immersa Hachem. Donc la réalité montre que ces prophéties qui sont écrites dans les prophètes se réalisent. Il faut lire chapitre 36, Yeheskel. Les villes détruites seront rebâties. Tu as des villes anciennes, antiques, d'accord, rebâties aujourd'hui au même endroit où elles étaient, de nouveau. C'est extraordinaire. Il y aura de nouveau à Jérusalem des vieux avec des cannes et des enfants en train de jouer. Le Ramban, Narmani, il a été expulsé d'Espagne en 1200 et quelques. Il est venu à Jérusalem ici faire les fêtes. Kippour, il n'y avait pas un minyan. Il y avait trois juifs ici. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il semblerait que la moitié du peuple juif est déjà en terre d'Israël. Ça veut dire quelque chose. Alors que c'était complètement anormal. Donc, quelqu'un qui voit tout ça, il ne dit pas Machiav, il arrive, il manque un grain en bon français.
Et Rachel aussi, dans 216 ans, il n'arrive pas.
Il n'y a pas une chose pareille. 216 jours, tu veux dire, mais ça t'achève.
Oui. C'est vrai qu'on est confiant pas au crachat, mais il faut être...
Attends, je pourrais répondre. Il faut ouvrir les yeux. Comprenez ce qui se passe. Je ne comprends pas. Il n'y avait personne en terre d'Israël. Maintenant, il y a un État juif. Cet État, il était goy. Il est devenu maintenant, c'est avec les dernières élections, il est devenu pratiquant. Il n'y avait pas de tchouva toute histoire. Il y a la tchouva. C'est marqué que le Mashiach ne peut venir que par la tchouva. Il y a un mouvement de tchouva énorme. Le monde de la Torah qui est extraordinaire, les victoires sur nos ennemis, la terre qui donne ses fruits, tout cela est écrit, ce sont les signes. Alors, on reste aveugle, tu me dis, viens pas avant 216 ans, mais regarde, si ça, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait, pourquoi le dernier acte n'aurait pas lieu? Hein? C'est pas normal. Si rien n'a eu lieu, tu pourras encore dire, moi je te dirais, t'es pas un croyant, t'es un incroyant. Je dis, ok. Mais maintenant, c'est plus une question de croyance, c'est des preuves. T'as ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Alors, il manque le dernier acte. Il va venir très bientôt, bien attaché. Oui.
Est-ce que parce que j'ai entendu dans d'autres mouvements quelque part où il y a une histoire de vrai messie, de faux messie. Est-ce que chez nous il y a cette histoire-là qui aura...
Il y a plein de faux messies. Ce qu'on a eu durant l'histoire. Chez Mishmor. Il y avait le Rambam, il écrit qu'à l'époque de son père, le Rambam, c'est bientôt 1000 ans, 900 et quelques années. Son père était Rabbi Maimon à Cordoba. Il raconte qu'à son époque, il y avait une grande ville en France qui s'appelle Lyon. Il y avait là-bas 10 000 juifs. C'est que 10 000 juifs pour l'époque, dans une ville européenne, 10 000 juifs, c'est énorme. Je ne sais pas s'il y a 10 000 juifs aujourd'hui à Lyon, à l'époque. Il y avait un faux messie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Un peu comme Tarzan. Il sautait d'arbre en arbre, comme ça, avec des lianes. Vraiment, d'accord. Et il a dit qu'il était le messie. Et des gens ont cru en lui. Il dit, on part en Israël. C'est une histoire terrible. Ils sont partis, ils sont arrivés à Marseille, ils ont loué des bateaux. Ils sont partis pour partir en Israël. Le capitaine des bateaux a détourné les bateaux en Tunisie, ils sont tous envoyés en esclavage. Combien a eu de faux messies? Combien a eu de faux messies dans l'histoire juive? Chaque tête fait, d'accord. Il y a eu énormément de faux messies. C'est pour ça que beaucoup se méfient quand on parle trop de messies, ils ont peur qu'on va croire en des gens. Alors non, on attend le bête, on ne dit pas c'est lui ou c'est lui ou c'est pas lui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Yanouka, il va être le messie. Alors je connais quelqu'un, un ancien élève qui est très proche de Yanouka, il a dit, je suis prêt à pardonner tout juif qui m'a fait du mal. Mais une seule chose que je ne pardonne pas, celui qui dit que je suis le Messie. D'accord? Il fait attention à ça, il ne veut pas qu'il y ait des choses pareilles, d'accord? Alors faut faire attention, pas dire lui ou lui, parce que on est bien fou, ici tu as des affiches, toutes sortes de rabbinim, quelqu'un qui est fan de son rabbin, il met une affiche, c'est le Mashiach, d'accord? Comme ça. Il y en a plus. C'est pas interdit. C'est pas interdit. La Gemara dans Sanhedrin, là-bas, dans le même chapitre, elle dit que les élèves de Rabbi Hanan disent que le Mashiach s'appelle Hanina. Les élèves de Shiloh disent qu'il s'appelle Shiloh. Comme ça, il y a plusieurs écoles, chacun croyait qu'ils disaient que le Mashiach s'appelle au nom de leur rabbin. Il y avait un avis là-bas qui dit que le Mashiach peut venir du monde des morts. Parce que dans Chabad, ils sont tous convaincus que Rabbi Lubavitch va être le Mashiach. Je dis, ok, c'est pas interdit d'après la Torah. Preuve en est que la Gemara cite qu'il peut venir du monde des morts. Mais si déjà, elle dit qui ? Elle dit que ce sera Daniel. D'accord ? Bon, peu importe, quelqu'un y croit que son mec c'est le Mashiach, pas de problème. Mais il ne faut pas faire du mythicisme, en faire un dieu, d'accord ? Il faut faire très attention à cela. Et Bezrat Hashem, Mashiach reviendra très bientôt. C'était ça ta question ? C'était quoi ? Voilà. Bezrat Hashem, très bientôt. On ne sait pas quand, mais tout crie que c'est prochain. Regardez, on est au bord d'une guerre avec l'Iran. Les textes parlent de cette guerre. Ils parlent qu'avec l'Iran, ça va être très mal à la fin. Alors. Dans la même page, là-bas, 98 de Sanhedrin, c'est marqué que tout l'Irak et la Syrie sont remplis des armées iraniennes. Tu n'auras pas un, c'est marqué dans le terme de la Gemara, tu n'auras pas un palmier en Irak dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Et après, ils viennent, Rachid dit, c'est Gog ou Magog, et après, ils viennent pour en Israël. On est au bord d'une guerre par aujourd'hui. Le Liban, la Syrie, l'Irak, c'est bourré de milices iraniennes, d'accord ? C'est chiite, d'accord ? C'est tout des travail pour l'Iran. Ça y est ! On y est, c'est encore un signe supplémentaire, oui.
Hier, il y a l'un des responsables du Hezbollah
qui a dit
qu'ils veulent envahir le Galilée.
Ouais, bon, ok.
Il y a une histoire comme ça, vous m'avez dit sur la Galilée qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau des textes sur l'invasion, non ?
C'est marqué qu'ils vont conquérir Israël. Mais bref, Hachem, le rabbin Shimon ben Shaul, on dit que c'est le rabbin le Boavich, il a dit comme ça, il a dit « Gog ou Magog, il y aura un ». Mais sans souffrance. Il dit qu'à mon avis, comme ça il a dit le Rav Ben Sion, il m'a dit, à mon avis, toute la souffrance de Gog ou Magog, inhérente à Gog ou Magog, c'est une guerre terrible, tout ça est passé dans la Shoah. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des miracles fantastiques. La dernière guerre, il y a eu 1400 missiles. Deux morts qui ne sont pas de notre peuple, d'accord ? Il faut se réveiller, c'est un miracle. Alors pourquoi maintenant ça irait mal ? Au contraire, tu as un monde de Torah qui grandit, beaucoup de tchouva. Il y a tellement de mérites que Baruch Hashem, je raconte une chose aussi très bien. J'ai un rave qui est très très din, très rigueur. Et un jour il a dit, c'est écrit dans le Talmud, que le Mashiach qui vient, soit une génération entièrement coupable, soit entièrement méritante. Et il m'a dit, moi je crois qu'on est dans une génération complètement coupable. J'ai sauté, je lui ai dit, mais non, il y a plein de balais, choix, etc., etc. Ok, en tout cas c'est un grand sadique cet homme-là. Baruch Hashem, mon voisin de palier, qui était très très proche de Rav Chaim Kanievski, il m'a dit que les petits-fils de Rav Chaim Kanievski l'ont posé la question. Grand-papa, on est une génération entièrement coupable ou entièrement méritante ? Il a dit entièrement méritante. Ben oui, mais à tous les non-religieux, il a dit un petit pouce, coup de pouce en avant du ciel, tout le monde la fera choua, Bezrat Hashem. Voilà. Donc ma chère viendra, méritante, sans douleur, très rapidement, très bientôt, on le verra. Je raconte une chose supplémentaire aussi. Je ne peux pas ne pas le dire. Tu me butes dans 216 ans, tu me parlais de ma fille. Il y avait un rabbin, Zechet Sadik Kershivracha, que j'ai fréquenté très proche. Il s'appelait le Rabbinson Abba Shaul Zatzal. Non seulement il j'y voyais tout, mais il a dit, voir c'est facile. Ce qui est dur, c'est changer. Il avait un pouvoir de changer les choses dans le monde extraordinaire. Un homme qui devait être ma chiyar, c'est Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Je suis actuellement en train de lire un livre sur lui qui est sorti dernièrement. Mais c'est miracle, les miracles qu'il faisait, sa grandeur en Torah, énorme, phénoménal. Il a dit, tous les sages de cette génération sont passés le seuil de ma porte, aucun égalé, le Rav Ben Sion Abba Shaul. C'est un homme de calibre énorme. L'actuel Rosh Hashiva de Port Yosef, le Rav Moshe Tzadka, dit, c'est phénoménal, il n'y a pas une parole qu'il disait qui ne se réalisait pas. Ça, c'est mon introduction. Un jour, j'ai eu la chance d'être assis avec mes parents. Mon père Blainara a eu 89 ans vendredi passé. Blainara, encore une longue vie. J'étais avec mes parents, moi-même, ma famille, et le Rav et sa famille. Je dis, Kvod Rav, nous, là, on verra Mashiach. Il a dit, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. Parole d'un grand d'Israël. Donc, ce n'est pas dans 216 ans. Et peut-être même pas dans 216 jours. Quand, je ne sais pas. Mais ben, ça me très bientôt.
C'est bien, enfin, moi j'aime votre optimisme et on en a besoin et tout ça, mais y a, vous savez, il y a un Rav qui avait fait une conférence justement sur, au niveau de la Shoah, qui disait justement tout où était Hachem durant la Shoah, d'accord. Et ce Rav-là, il rapporte que Chas v'Shalom, je répète bien Chas v'Shalom, mais on risque peut-être Chas v'Shalom du deuxième Shoah quand on voit l'état d'Israël, ici, de vers quoi on s'oriente. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on se définit comme un pays, mais presque laïque. On est content parce qu'il y a le championnat de
Habibi.
Du monde d'Israël, de championnat de foot.
Écoute-moi bien.
On dit, ouais, c'est ça.
Arrête de parler. Tu dis n'importe quoi.
Ouais. Tant mieux.
Parce que si tu compares la situation de l'État d'Israël il y a 50 ans.
Justice,
attends. Si tu compares la situation de l'État d'Israël il y a 50 ans aujourd'hui, il y a 50 ans, c'était l'enfer du point de vue juif. Aujourd'hui, c'est le paradis. Mais tu ne te rends pas compte comment ça a changé. Tu vois le mal qu'il y a aujourd'hui. Tu dis, c'est terrible. Mais tu peux imaginer ce qu'il y avait comme mal. C'était 100 fois pire. Ça n'existait pas de religieux. C'était complètement laïque. C'était terrible. Aujourd'hui, c'est fini. Ça revient. Il y a une étude sociologique qui a été faite il y a quelques années par une boîte non religieuse en Israël. Ils ont prendre un échantillon sur la population israélienne, ils ont posé une trentaine ou une cinquantaine de questions. La population israélienne est en train de vivre une révolution interne extrêmement grande de rapprochement à la Torah qui n'est pas un effet de mode. Bien qu'il y ait beaucoup de non-religieux, mais aussi se rapprochent. Je veux dire qu'ils ont, est-ce que vous ouvrez une fois la Bible pour lire? Une fois par année? Oui. Est-ce que vous pensez que Dieu gère le monde? Oui, des non-religieux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une incidence entre le comportement des juifs et le destin du peuple juif? Oui, des gens non-religieux énormément. Tu te rends pas compte de ce qui se passe. La fille de Moshe, tu connais Moshe Dayan? La guerre de six jours, le type l'avait comme ça. Sa fille, t'es connu la fille de Moshe Dayan, elle dit, ils ont mis en première page dans le journal, moi, Yom Kippour, je vais à la plage. On la voit en maillot de bain à la plage. C'est une honte. Mais c'est fini, tu n'auras plus un truc pareil aujourd'hui. T'as une minorité qui crie très très fort. Pourquoi ils crient, la gauche crie tellement fort aujourd'hui? D'abord, ils sont payés par des gens à l'étranger, des réformistes, parce qu'ils sentent que c'est leur fin. Donc la situation d'Israël, elle n'a jamais été aussi bonne que cela. Je m'attends le grand Israël qui a dit entièrement méritante. Tu veux quelque chose de plus que cela? Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.